Bonjour, vous êtes bien sur Radio Escapade pour l'émission Écriture dessinée. Il est 14h, nous sommes avec Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Marin. Félicitations pour ta technique. En tout cas, je redirai ça à la fin de l'émission. Alors, aujourd'hui, quatre projets narratifs, tous traversés par une dimension politique, soit directement dans le récit, soit à travers la littérature, ou une galerie de personnages médiévaux, par exemple celle du roman graphique de Marcel Chourgian, Adieu mon royaume. Il est composé d'une série de portraits où chaque personnage use d'un jeu, exprime son quotidien, sa vie, dans un Moyen-Âge où les figures d'autorité sont saillantes. Un roman graphique sélectionné dans deux catégories pour le Festival international de la bande dessinée 2025 d'Angoulême. Nous serons avec Marcel Chourgian vers 14h15. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous l'avez entendu, c'est Marin qui est en régie. Les musiques, aujourd'hui, elles ont été choisies par Marcel Chourgian. Vous allez écouter successivement The Mountain Goats, Mitski et Kasabian. Une brève pour commencer. Elle concerne le roman graphique Hey Joe, qui a été primé dans la catégorie bande dessinée au dernier salon de Montreuil. C'est pas peu dire parce que c'est un rendez-vous extrêmement important pour tout ce qui concerne à la fois la littérature jeunesse, mais aussi la bande dessinée pour la jeunesse. Et Hey Joe est une sorte de road trip intimiste avec une relation père-fils très puissante où pour pouvoir renouer avec son fils de 13 ans, eh bien, un père qui est camionneur va l'emmener avec lui et il va y avoir vraiment une découverte, pas seulement de ce père, mais aussi de ce qu'est le monde et de quelle façon vit son père. Et Joe est donc écrit par Marzena Sowa, mis en image par Geoffrey Delinde. J'avais présenté ce roman graphique et il est pépite pour la bande dessinée du Salon de Montreuil 2024. Et c'est une excellente nouvelle. C'est publié par Gallimard Bande Dessinée et le livre est au prix de 25 euros. Virgule. Alors commençons ces projets narratifs par un que je trouve important, et ça me paraît très bien de commencer cette émission avec lui. Ça s'appelle Le nom d'Amalek, 10 ans de guerre secrète au cœur de Paris. Alors c'est un titre qui est un peu énigmatique, mais en tout cas... on découvre une famille juive en premier plan avec en arrière-plan des sortes de fantômes. Et la quatrième de couverture nous permet de rentrer déjà dans ce roman graphique. Paris, 1979, Franck a 17 ans et demi. Il vient d'intégrer l'organisation et a déjà fait parler de lui. Une première opération seule et sans l'aval des anciens. Ce gamin a du cran. Au moins, les néo-nazis sauront à quoi s'en tenir. Franck lance sa carrière de militant actif et violent. Il est chasseur de néo-nazis, en mode petit bandit qui croque la vie à pleines dents, en famille et en bande. 10 ans au cœur d'une guerre secrète que se sont menées l'Organisation de défense juive et les mouvements d'extrême droite en France. Je complète tout de suite ce résumé que l'on peut lire en quatrième de couverture par un complément. Toute ressemblance avec des faits historiques n'est pas qu'une coïncidence. Cette histoire est inspirée de faits réels, mais elle n'en demeure pas moins une fiction. Les personnages historiques côtoient des êtres composites et d'autres totalement imaginaires. C'est une précision que je tenais à faire parce que c'est une façon aussi de cadrer, de donner une précision sur ces rapports entre la réalité et la fiction, entre le fait historique et un fait qui va rentrer dans l'écriture d'une fiction. Là, on a une astuce, puisque ce récit, le nom d'Amalek, a deux scénaristes. Il s'agit de David Ribaudjad, qui est journaliste et réalisateur, de Corbéran, qui est un scénariste qui a déjà plus de 400 livres à son actif, et puis Nicolas Bègue, qui est auteur, dessinateur, coloriste, et qui va effectuer également le lettrage de ce roman graphique. Alors, et il y a dans le nom d'Amalek, dans les 10 ans de cette guerre secrète, d'une part, une organisation juive, je l'ai dit, dans la quatrième de couverture, on découvre le Paris de 1979, et on va rentrer dans une famille juive, et qui va être présenté, et tout le récit va être présenté par le plus jeune représentant de cette famille. Il s'appelle Raphaël, dit Rapha, et c'est lui qui va commenter, qui va observer et décrire ce qui se passe. Il y a la plus ancienne, une grand-mère, qui voit des fantômes, et déjà, cette présence de fantômes qui accompagne cette vieille femme montre déjà une emprise de la fiction dès les premières pages, et c'est une très bonne idée. Corbéran, je pense, use, mais avec sagesse, de ses talents de scénariste pour donner une structure, des fondements essentiels à ce récit. Le dessin, je vais rentrer un peu plus précisément dans le dessin, est un dessin qui est plutôt classique, avec un trait jeté, assez énergique. On a des proportions qui sont tout à fait réalistes, donc on a une représentation qui va faire immédiatement écho à ce que l'on peut vivre. Et puis, il y a une utilisation d'un noir franc, pour marquer les ombres, pour souligner quelques valeurs. Et ce noir va d'autant plus apparaître, va jouer pleinement son rôle, que Nicolas Bègue a choisi d'utiliser un lavis de gris. Et on a donc toutes les nuances de gris qui permettent une lecture facile de chaque image. Très rapidement, on voit comment fonctionne cette représentation avec un tracé des décors qui est plutôt léger, qui va donc mettre en avant les personnages, et ça va facilement fonctionner puisque finalement, c'est les individus qui vont vite prendre le pas, et le décor, même tracé légèrement, va permettre de bien contextualiser le déroulé, le décor de cette histoire qui est parisien. Alors, il y a maintenant le récit. Donc, quels sont ces faits historiques ? Eh bien, en fait, c'est une sorte de défense armée, de guerre secrète, comme l'exprime le sous-titre, entre cette organisation juive qui va exprimer et être organisé pour défendre, et qui va s'opposer aux néo-nazis qui sont présents, et même très présents, dans la capitale. Donc il y a cette organisation de défense juive qui va être vraiment organisée avec une préparation au combat de rue, avec notamment un personnage qui va être un peu plus saillant, qui est Yaïr, qui va s'occuper de cette organisation, qui va préparer et donner les directives pour qu'il y ait ces affrontements avec les néo-nazis. Alors, dans cette France des années 80, eh bien, c'est assez important de pouvoir recréer le contexte de l'époque, de reprendre et de donner une histoire à ces groupes d'extrême droite, des extrêmes droites, et de montrer ainsi leur présence, leur action violente, leur idéologie. Il y a quelques passages qui montrent bien quels sont les points cruciaux qu'ils défendent, et notamment le racisme et l'antisémitisme. Donc il y a vraiment une dimension très forte de ces groupes néo-nazis et qui donc vont être là pour avoir des actions violentes et casser des communautés, des minorités, et essayer vraiment d'imposer pour eux ce pouvoir. Et c'est vraiment l'émanation des nazis. Il y a une croix gammée qui va être affichée dans le bureau d'un de ces groupuscules. C'est donc un moment assez essentiel de l'histoire. Ça va durer 10 ans, puisque à un moment, l'État va reprendre la main, et donc il va être sommé à cette organisation de défense juive d'arrêter son combat avec les néo-nazis. C'est aussi un moment assez important, puisque à plusieurs reprises, des personnalités, des créateurs juifs ont demandé à sortir de cette image victimaire du peuple juif qui est véhiculée notamment par une certaine orientation des commémorations qui sont imposés à toute cette diaspora. Et puis, il y a donc, à travers cette organisation de défense juive, cette position opposée où ils se sont organisés pour pouvoir cesser toute oppression de la part des néo-nazis. Alors ça fonctionne très bien, la lecture est tout à fait lisible, il y a un sens des dialogues, il y a un sens de l'organisation de la double page, il y a des scènes de foule qui sont parfaitement maîtrisées, on est vraiment au cœur de ces différents moments qui vont être vécus par Franck, mais aussi tous ceux qui sont autour de lui, notamment cette organisation, mais aussi sa famille et d'autres personnalités. Il y a quelques réserves que l'on peut avoir au niveau des scènes, notamment sur la partie foule dans une boîte de nuit, où là on n'y croit pas trop, mais par contre celle des bagarres de rue est vraiment convaincante. C'est un moment d'histoire qu'il est important de découvrir, de connaître et de l'intégrer avec toute cette évolution des groupes des extrêmes droites. Le nom d'Amalek, 10 ans d'une guerre secrète au cœur de Paris, s'est mis en image par Nicolas Bègue, qui est dessinateur, coloriste et lettreur. C'est scénarisé par David Ribaud-Jade et Corbeyran pour la partie scénario. C'est publié par les éditions Delcourt dans la collection Mirage. Les 200 pages de ce livre sont au prix de 24 euros. Virgule. Alors, je voudrais poursuivre avec un livre de Josaco. J'avais présenté dernièrement son « Guerre à Gaza », qui était un cri de colère. Et là, il revient, donc il y a une publication qui succède de façon très proche à « Guerre à Gaza », qui s'appelle « Souffler sur le feu ». Alors, c'est un livre important. Le documentaire dessiné, le reportage dessiné a été mis en place, créé, développé par Cabu dans les années 60. Et Josaco, en fait, en a fait une écriture vraiment personnelle. Et la plupart de ses livres sont nourris de ce principe du reportage où l'auteur est sur le terrain. Et Josaco est reconnu aussi comme journaliste. Son écriture est vraiment marquée par ça, par cette volonté journalistique. Alors, Josaco a affirmé le choix d'un dessin réaliste avec une précision graphique. Et il faut imaginer le dessinateur de façon posé, qui va dessiner, qui va donner à chaque image une sorte de authenticité par le fait que le trait n'est pas du tout jeté, c'est un trait tiré qui va vraiment être au plus près des visages, des regards, des gestes, des décors. Josaco choisit d'être précis aussi dans les décors et son dessin noir et blanc va être animé par l'utilisation de traits parallèles très fins qui vont marquer par exemple la couleur de la peau, mais aussi par quelques hachures, mais qui seront relativement peu présentes. Alors, dans cette atmosphère et que l'on découvre immédiatement dès le feuilletage, dès le parcours du livre de Josaco, il y a un récit qui se développe et qui est un récit sur l'Inde et sur les violences entre musulmans et hindous. Et c'est une violence que très vite Josaco va questionner. Comment se fait-il qu'il y ait, alors que l'histoire avait plutôt tranché par rapport à cette opposition entre musulmans et hindous, et notamment au moment de la création de l'État indien, lorsque les Anglais sont partis, il y avait eu des affrontements très violents, mais il y avait une sorte de paix qui s'était instaurée, et ces violences montrent au contraire un tout autre visage, et elles ont lieu dans un état de l'Inde, puisqu'il y a un découpage, c'est un très grand pays, il y a des états qui sont très importants, et cet état c'est l'Uttar Prabang, et qui va donc être le lieu de très violents affrontements entre musulmans et hindous. Alors, Josaco va se livrer à un travail d'enquête. Il est accompagné par un journaliste indien qui va lui permettre d'aller dans les différentes villes, de pouvoir être au plus près des événements, des lieux, des protagonistes, des participants, des victimes et également. Et son ami journaliste a le même désir d'enquête et de vérité tout au long de ce récit. La situation est assez complexe, d'où ce principe de l'enquête, avec cette position journalistique qui met en doute les différentes informations qui vont pouvoir lui être communiquées. Et c'est essentiel parce que il y a donc en tant que lecteur, ce partage de la façon d'aborder des événements, des informations et la réserve que l'on peut toujours avoir, et notamment par le développement des fake news. Il y a donc ce besoin de recouper des informations et ils vont aussi bien aller voir les Indiens que les Hindous que les musulmans. Et c'est très éprouvant à lire parce que on a l'impression que cette violence et la façon dont elle se déchaîne, ça n'a pas beaucoup d'issue. Comment découvrir cette façon dont ces raisons de ce développement de violence, et la très grande force de ce récit de Josaku, c'est de montrer comment, s'il y a une dimension religieuse, il va y avoir aussi une dimension économique et sociale, puisque les musulmans sont souvent les ouvriers des Jats, qui est une communauté hindoue un peu particulière, située donc dans cet État, et comment l'État a utilisé ces antagonismes, les a renforcés, et qui a notamment permis l'élection du dernier dirigeant de l'Inde. C'est parfaitement articulé, il y a une précision dans l'écriture qui est à l'image de celle du dessin, et il y a là aussi, grâce au documentaire dessiné, cette façon de mettre à notre connaissance une situation sur laquelle les informations ne s'attardent pas, et c'est ce que permet justement l'écriture dessinée d'un auteur comme Josaku. C'est un livre important qui fait suite à une bibliographie déjà tout à fait conséquente, et c'est dans cet état de l'Uttar Pradesh, maintenant dans le nord de l'Inde, dans cet état qui est à la frontière du Népal, maintenant on aura une connaissance beaucoup plus précise, et c'est aussi ça la force de la bande dessinée. Souffler sur le feu de Josaku, c'est un récit qui est traduit par Sidonie Van Dendries et le lettrage a été effectué par Stevan Rudo. C'est publié par les éditions Futuropolis et les 140 pages de ce livre sont au prix de 22 € et le livre a été imprimé en France. Musique.
But they can find a use for a scarecrow, depending on your stomach for crows. Always gonna need a little muscle if you prove yourself worthy of trust. Your bones don't rust. Haven't checked a mirror in years. Don't need to know the bad news. There's not gonna be a gold. Of the spirit, maybe something wrong with your ears. Always on the edge of collapse now. Absolutely nobody cares, but everybody loves a professional. Not a single track in the dust. Your bones don't rust.
Adieu mon royaume, le roman graphique de Marcel Chorgian, se déroule dans un Moyen-Âge fantasmé. Les portraits, distincts, révèlent des personnages affirmant le « je », questionnant leur place face aux lois et aux usages d'une société féodale marquée par les figures d'autorité. Chacun exprime le poids de leur pouvoir. L'emploi de la négation souligne l'empêchement, ce que chacun ne sera pas. Adieu mon royaume met en scène cette volonté du dépassement de soi, du dépassement souhaité de l'autorité. Adieu mon royaume raconte avec son Moyen-Âge ses parcours singuliers de résistance qui s'appliquent aussi à notre monde. Avec une grande maîtrise de l'écriture dessinée, d'une grande cohérence narrative, précise dans la mise en scène de chaque double page, le cadrage de chaque case, apportant du temps à chaque image, dans le trait de chaque visage, de chaque geste, de chaque décor. Un dessin posé, maîtrisé, finit de donner de l'ampleur au premier roman graphique de Marcel Chorgian. Nous sommes avec l'auteur pour qu'il nous détaille les étapes de son écriture dessinée. Bonjour Marcel Chorgian.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien votre nom ?
Oui, absolument.
Bon, bah ça va. Donc, à la lecture, après la lecture de votre roman graphique, moi j'aimerais que vous puissiez nous expliquer comment déjà est née l'idée de ce « Adieu mon royaume » et à quel moment est arrivée la volonté de personnages distincts.
Alors, le début d'Adieu mon royaume, ça a été le prologue de la bande dessinée, la première histoire qui s'appelle Le Retour, qui a été d'abord écrite comme une histoire courte indépendante, en fait, de ce projet. Et ensuite, j'ai eu envie de creuser ce qu'était ce royaume où le personnage retournait. Et ça s'est construit de manière un peu géographique, c'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai divisé le royaume en trois parties. Il y avait la cour, la ville et la forêt autour. Et l'idée, c'était de placer deux personnages par lieu. Donc on a la créatrice et le fou qui sont à la cour. On a la sorcière et l'apprenti à la ville et dans la forêt, le fanatique et la bête. Et une fois que j'ai eu l'idée de ces personnages qui sont définis par leur fonction au royaume, j'ai pu commencer le travail d'écriture pour chaque histoire.
Alors, Marcel Chorgian, ce travail d'écriture, en quoi consiste-t-il ? Comment, alors, posez ma question autrement, quelles sont les pistes que vous avez évacuées et celles que vous avez gardées ?
L'idée, c'est qu'il y ait une cohérence stylistique et littéraire entre les différents personnages. Et l'idée, c'était aussi qu'à la fois, ils aient des destins tous très différents et en même temps qu'ils disent tous quelque chose de l'ensemble de ce royaume et des différents systèmes de domination, des différentes injonctions qui existent sous le joug d'un roi un peu tyrannique. Et ensuite, il a fallu travailler à ce qu'il y ait une sorte d'enchâssement de ces histoires qui mènent vers un destin collectif pour le royaume.
Alors, comment avez-vous gardé une vision d'ensemble, justement, pour maîtriser ces enchâssements ?
Disons qu'en fait, il y a des choses qui se sont faites sans que j'aie à les forcer, quoi. C'est-à-dire que les histoires écrites individuellement je me rendais compte, même parfois a posteriori, que les thèmes étaient conservés, mais à des échelles différentes, quoi. Que les figures d'autorité, qu'elles soient hiérarchiques, familiales, mythologiques, se retrouvaient dans toutes ces histoires. Et que, la question de l'enchâssement, à la fin, devait forcément se poser sur la question du destin du royaume lui-même.
Alors, Marcel Chorgent, à quel moment avez-vous vraiment appuyé et poussé cette utilisation du « je » puisque les six personnages que vous avez évoqués vont tous parler à la première personne?
Oui, disons que c'était important pour moi, même si c'est pas forcément le choix le plus commun, que la narration se fasse par le biais d'un récitatif plutôt que par des dialogues directs. Parce que ça permettait à ce que chacun de ces personnages puisse exprimer son point de vue, qu'on ait un accès direct à leur intériorité, et en même temps que ça donne un aspect presque de fable ou mythologique à ces histoires, qui de destin individuel passe un peu à des monologues presque de théâtre, quoi, où chaque personnage peut installer une ambiance et une individualité.
Comment avez-vous travaillé les dialogues, Marcel Chorgent?
Eh bien, des dialogues directs, il y en a vraiment très très peu. Mais
récitatif, parce qu'effectivement, parce que le lecteur qui va lire, alors souvent on entend une voix intérieure, hein, bon il y a des lecteurs qui s'en passent, mais est-ce que vous les exprimez à haute voix? Est-ce que vous travaillez les enchaînements de ces différents récitatifs?
Oui, il y a beaucoup de travail Moi, je travaille le texte d'abord avec seulement quelques images mentales. Et ensuite, c'est le rythme du texte qui va dicter la manière dont je vais faire le découpage de la case. Donc, de la case et de la page, l'idée, c'est de laisser respirer les phrases les plus marquantes ou de faire s'enchaîner de la manière la plus harmonieuse possible des successions de phrases qui correspondent à des crescendo. Donc voilà, l'idée c'était avant tout de travailler le texte, avoir l'image qui vient après, et que l'image ne soit jamais une sorte de répétition ou purement d'illustration du texte, que l'image vienne entrer plus en profondeur ou même parfois en contradiction avec ce que dit le personnage.
Il y a d'ailleurs une organisation des récitatifs dans la double page qui est maîtrisée, parce qu'on sent vraiment que chaque récitatif est placé. Lorsqu'on regarde la double page, il y a une organisation précise. Là aussi, sur le lettrage, sur le placement des textes, sur ce cadre rectangulaire avec des coins arrondis, des récitatifs. Comment se sont faits tous ces choix? Est-ce que vous les avez testés? Est-ce que vous les avez choisis parmi d'autres?
Disons que c'était ce qui me semblait le plus cohérent et le plus intéressant pour que la forme soit en adéquation avec le fond, c'est-à-dire une histoire qui se passe dans une époque médiévale, alors certes fantasmée, mais qu'il y ait des marqueurs visuels de cette époque-là qui soient forts, que ce soit les archétypes qui ressemblent à ceux des cartes de tarot de la Renaissance, ou des enluminures avec beaucoup de motifs, ou la gravure aussi. Donc l'idée, c'était d'avoir cette cohérence-là dans la composition des images avec l'époque choisie. Et il y avait aussi ces possibilités-là, en allant chercher dans l'imaginaire de la cartomancie, de créer des symboles forts et oniriques aussi pouvait répondre très directement aux interrogations parfois existentielles des personnages.
Alors Marcel Chorgien, c'est votre premier roman graphique. Est-ce que vous aviez déjà fait de la bande dessinée auparavant et pourquoi ce choix de la bande dessinée ?
Alors en fait, c'est mon deuxième, mais le premier a été publié sous un autre nom.
Ah, alors celui-là, je ne l'ai pas trouvé.
Oui, alors c'est le même nom de famille, mais un autre prénom. Et mon premier a été publié il y a 2 ans, c'était chez Les Enfants Rouges, ça s'appelle Lucie sous la Lune. Et c'est une bande dessinée qui est un peu plus pour adolescents que pour adultes, mais qui a aussi des côtés très oniriques. C'est une jeune fille, une adolescente de 13 ans qui est envoyée un peu contre son gré en colonie de vacances et qui parle de la découverte du jeu de rôle des loups-garous, trouve un peu un support identificatoire pour son désir naissant qu'elle vit un peu comme une forme de prédation et pour lequel elle n'a pas trop de mots. Et il y a beaucoup de choses en commun. Il y a aussi la présence du tarot et d'une narration avec des rêves intégrés à l'histoire. Et pourquoi la bande dessinée ? Parce que moi, ça a été mon premier, mon premier contact avec l'art en général, ça a été la bande dessinée sur les étagères de chez mes parents, quoi. Mon père était très 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 fan de bande dessinée. Et voilà, je suis allée beaucoup plus tardivement au musée qu'à la médiathèque pour aller lire de la bande dessinée. Et ça me semblait être une synthèse assez parfaite entre ce que j'aimais, c'est-à-dire lire, écrire et en même temps dessiner, produire des images. Et c'est un médium qui a des potentialités absolument folles et que j'aime énormément.
Alors, Marcel Chorgien, je vous propose qu'on écoute votre deuxième choix musical, c'est-à-dire Mitski, et on se retrouve donc dans quelques minutes. À tout de suite.
Très bien.
It just took me a while till I knew. Now I lay as I study a blank wall. Would you spare me your voice if I call? 'Cause you waited and watered my heart till it grew. You just grew a little smarter too. My heart, but it's kept me from falling apart. Now here I lay as I wonder about you. Would you just tell me what I'm meant to do? 'Cause I've waited and watered my heart till it grew. You can see how it's blossomed for you.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Marcel Chorgien et nous discutons sur son livre « Adieu mon royaume ». Marcel Chorgien, comment réalisez-vous votre découpage ? Est-ce qu'il y a un travail préalable sur l'ensemble? Est-ce qu'il y a, au contraire, une sorte d'écriture dessinée où le récit va se mettre en image et vous allez le dérouler au fur et à mesure?
Alors, pour le découpage, en général, pour chaque histoire, pendant que j'écris le texte du récitatif, je vais avoir sûrement 4 ou 5 images très fortes que je vais avoir en tête et que je sais qu'il va falloir que je place dans ce découpage-là. Mais je commence d'abord le découpage à l'écrit, c'est-à-dire que je prends le texte et je le divise par page. Je me demande voilà, combien de telle partie va rentrer dans telle page, combien dans celle-ci, de manière à ce qu'il y ait une cohérence voilà, thématique ou de rythme dans le nombre de pages que je vais avoir. Et ensuite, je vais faire ça page par page, et toujours en ayant, comment dire, quand je fais la première étape de découpage de storyboard, j'essaie de travailler en miniature, parce que si on travaille sur un trop grand format, on va avoir, comment dire, on va être pris par l'envie de dessiner. Et le découpage, la composition, c'est pas ça, c'est placer des petits éléments sans rentrer dans les détails. Et le fait de travailler ça sur un tout petit format, ça permet d'avoir une vision d'ensemble et de la page et de la double page. Et une fois que ça s'est placé, où je sais exactement quelle phrase va apparaître dans quelle case, comment je vais découper, là je vais passer à une deuxième étape de storyboard qui est beaucoup plus détaillée, qui correspond presque à un crayonné, mais où il y a des choses qui peuvent encore bouger. Voilà.
Alors, comment travaillez-vous le cadrage précisément? Est-ce qu'il y a une règle? Il y a toujours cette unité de récit de la double page? Et c'est vraiment pour placer les regards, la position des personnages, les liens entre les différentes images, les entrées de champ, les sorties de champ?
Oui, complètement. Je travaille presque toujours en double page, parce que c'est vrai que la bande dessinée, comment dire, c'est quelque chose de... Pour la composition, il y a plusieurs unités à prendre en compte. Il y a la case elle-même, la page et la double page. Donc, les éléments se répondent à plusieurs échelles. Et là, dans la composition, pour garder à nouveau une cohérence avec les inspirations qui sont... Le tarot, la cartomancie, les enluminures, la gravure médiévale, tout ça. Il y a beaucoup de compositions qui sont assez frontales ou qui sont avec des personnages de profil pour garder un peu ces inspirations-là. Et quand il y a des choix un peu plus cinématographiques, donc avec des plongées, des contre-plongées, des compositions plus dynamiques, ça va être vraiment pour mettre de l'emphase sur des moments avec une action plus soutenue ou pour créer une émotion très particulière. Et c'est un petit peu plus rare dans la bande dessinée.
Alors Marcel Chorgian, vous avez un dessin qui pose vraiment à la fois les personnages, mais aussi les décors dans lesquels ils évoluent. Il y a le fait qu'ils soient avec un chapitre par personnage, ou un pour la bête, qui est donc un animal. Vous avez choisi vraiment de finalement donner un temps de lecture un peu plus lent en ayant ce trait posé qui vraiment va s'écarter un peu de la représentation très dynamique du mouvement avec un peu plus d'emphase. On a l'impression que tout est posé dans votre récit.
Oui, c'est vrai que, c'est un choix pour cette bande dessinée-là. Au lieu qu'il y ait une action très soutenue et un rythme de lecture où l'œil balaye vite la planche et fait très spontanément l'ellipse entre chaque case, là il y a eu une volonté de ma part qui est une qualité presque plus illustrative dans chaque case, et que le regard prenne plus de temps à s'arrêter sur chaque image. Parce que voilà, il y a eu un choix de ma part que les images soient, comment dire, pour que la lecture se fasse de manière très soutenue, la bande dessinée utilise la stylisation et la simplification. Là, c'est un peu l'inverse. Chaque case est assez lourde dans le sens où il y a énormément de motifs et d'éléments, d'informations visuelles, on va dire. Donc, c'était effectivement pour ralentir la lecture. Qui est un plaisir, comme un plaisir à regarder des œuvres voilà, médiévales ou de la Renaissance, qui sont très détaillées, où il y a tout un tas de petits éléments qui peuvent avoir un sens, beaucoup de jeux symboliques aussi. Et ça permettait aussi de ralentir la lecture du texte elle-même, parce que finalement, c'est une succession d'histoires courtes qui finissent par s'en chasser. Mais le texte, il est, je trouve, très similaire à l'image, c'est-à-dire que finalement, les textes sont assez courts, mais il y a un style qui fait qu'il y a beaucoup d'informations ou une certaine musicalité dans chaque phrase qui demande une certaine lenteur dans la lecture.
Marcel Chorgian, votre dessin, n'est-ce pas une façon d'être en cohérence aussi avec une utilisation de la négation qui est très appuyée? Vos personnages disent aussi ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils n'arrivent pas à être, ce qui est quand même assez inhabituel. C'est, votre dessin dit aussi ce qu'il ne veut pas être. Il est vraiment dans cette façon posée. Pourquoi c'est ce recours à la négation comme ça?
Disons que je vais faire un parallèle qui relève d'un ressenti personnel, mais je pense que il y a dans ces personnages et dans le dessin et dans la manière dont ils sont incarnés, une manière que moi j'ai de poser, la manière dont moi j'ai envie de faire de la bande dessinée, voilà, c'est je suis extrêmement content qu'il y ait eu de nominations au Festival d'Angoulême. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est une bande dessinée qui est publiée chez un éditeur indépendant. C'est une bande dessinée qui ressemble pas forcément à beaucoup d'autres qui sont en rayon. Et voilà quoi, c'est-à-dire que la manière dont l'individualité des personnages est exprimée, c'est aussi la manière dont moi j'ai envie de faire de la bande dessinée qui... n'est pas forcément dans les normes les plus commerciales. C'est une bande dessinée que j'ai proposée à d'autres éditeurs avant, un peu plus des plus gros éditeurs, plus mainstream, on va dire, dans le milieu de la bande dessinée. Et on m'a demandé de changer beaucoup de choses. On m'a demandé que les dialogues soient des dialogues directs plutôt qu'un récitatif. On m'a demandé que ce soit non pas en palette restreinte pour chaque histoire, mais entièrement en couleur. Donc voilà, je pense qu'il y a un refus des personnages, et puis il y a eu un refus de ma part aussi de faire une bande dessinée d'une manière dont j'avais pas envie de la faire. Et voilà, c'est à deux niveaux, et au niveau même de l'histoire et au niveau de la réalisation de cette bande dessinée même, il y a une affirmation d'une envie particulière, d'une certaine vision de comment faire art et bande dessinée.
Qu'est-ce que va changer ce livre pour vous, Marcel Chorgian? Qu'est-ce qu'il ouvre comme horizon?
Ben, il ouvre un horizon qui me dit que, je vais pouvoir me laisser un petit peu la possibilité de faire des choses peut-être plus expérimentales, qui sont des choses qui me plaisent beaucoup dans la bande dessinée, ou de raconter des histoires de manière un peu plus étrange que d'habitude, on va dire. Disons que la reconnaissance par la nomination par le Festival d'Angoulême, c'est quelque chose qui me donne aussi plus confiance dans mon travail et dans le fait de se faire confiance quand il s'agit de faire des choix des choix étranges, on va dire, voilà, de choisir de faire de la littérature de genre, de faire des choses dans des époques différentes, avec une patte, disons, qui est un petit peu différente de celle dont j'avais l'impression qu'il fallait avoir quand je commençais à peine à faire de la bande dessinée, et que je me disais que, comment dire, je me rends compte que plus les choix sont spécifiques, plus les lecteurs réagissent à ces bizarreries-là, et c'est ça qui fait apprécier une œuvre avant tout, quoi, plutôt que le besoin de parler au plus grand nombre.
Merci beaucoup, Marcel Chorgian. Je vous souhaite un très bon Angoulême, avec peut-être une très belle consécration. En tout cas, je rappelle les caractéristiques de votre livre « Adieu, mon royaume ». Donc, c'est publié par les éditions « Six pieds sous terre ». Et les 120 pages de votre livre, qui est toilé, c'est un très beau travail de fabrication, mais il est au prix de 25 euros. Eh bien, à bientôt. Au revoir, Marcel Chorgian. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Je voudrais terminer avec un livre, c'est le deuxième tome d'un livre consacré à la littérature américaine. Ça s'appelle « Il était une fois l'Amérique », une histoire de la littérature américaine, le XXe siècle. Alors, c'est toujours difficile de traiter de ce genre de thème. Je vous avais présenté cette incroyable histoire de la géographie il y a quelques semaines. Et donc, on a très vite des récits très denses, des informations en très grand nombre. Et utiliser la bande dessinée pour parler de la littérature, c'est pas forcément naturel. Soyons clairs là-dessus. Ce qui en fait une force, eh bien, c'est par exemple un certain nombre de biographies dessinées qui ont montré toute la pertinence de l'utilisation de l'image pour donner un contexte beaucoup plus intense, finalement, à une biographie, parce que la représentation, le dessin, va donner une immédiateté dans la lecture qui fait que lorsqu'on lit une biographie écrite, on n'a pas cette même immédiateté. Alors, une histoire de la littérature américaine du XXe siècle, ça demande déjà plusieurs biographies, et les auteurs en ont choisi 10. Alors déjà, vous imaginez que le choix n'a pas dû être simple. Alors, on a vraiment 10 grands noms. Dashiell Hammett, c'est lui qui ouvre le livre. Il y a Henry Miller, il y a Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Tennessee Williams, Jacques Kerouac, Truman Capote, et on finit par une femme, Flannery O'Connor. Déjà, le choix est pleinement pertinent. Alors, comment se passe le travail d'écriture et de mise en image ? Alors, l'écriture, elle est portée par Catherine Maury, qui avait réalisé déjà le premier tome. Et puis, il y a Jean-Baptiste Ostache, qui est un dessinateur au trait plutôt jeté, qui garde une énergie, une vivacité dans son trait, qui va donc chercher une synthèse et qui ainsi va donner une ironie à son dessin, puisqu'il va capter les ressemblances, mais on n'est pas dans ce dessin réaliste posé, on est toujours dans une dynamique du trait et qui va parfaitement s'adapter à ces écritures de biographies plutôt courtes. Puisque le livre fait 256 pages, il y a donc 10 biographies, ça donne quand même un peu d'espace, mais il y a les enchaînements, il y a un prologue et un épilogue, court certes, mais donc il y a quand même relativement peu de pages pour écrire la vie de ces 10 écrivains. Alors, ce qui est aussi une autre difficulté, c'est que les biographies ne doivent pas épuiser la connaissance qu'on va avoir des écrivains, mais au contraire, susciter un désir de lecture. Et donc, à chaque fois, il y a vraiment ces éléments biographiques forts, avec des choix pertinents, qui vont donner lieu à des récitatifs qui peuvent parfois être assez ironiques, des dialogues qui vont aussi renforcer l'ironie, parce qu'il y a dans la vie de ces différents écrivains une sorte de reflet, de lien direct avec ce qui a été vécu aux États-Unis au XXe siècle. On peut citer 1929, il y a les restes de la guerre de sécession qui vont pouvoir apparaître ici et là dans la vie de quelques-uns de ces écrivains. Il y a la Seconde Guerre mondiale, les rapports Nord-Sud qui vont être très présents, comme par exemple dans l'œuvre de Flannery O'Connor et la biographie qui achève cette histoire de la littérature américaine est vraiment d'un très bon choix, tant par l'ironie qu'il y a dans l'écriture de Flannery O'Connor, c'est cette question du racisme qui est omniprésente. Il y a dans cette histoire de la littérature américaine des façons d'être au monde qui sont très fortes et qui peut-être relient les différents auteurs, et notamment leur rapport à la religion, le rapport à une dureté souvent de la vie, de la précarité dans différents endroits des États-Unis, et les lieux sont très différents d'un auteur à l'autre. Le rapport à l'alcool peut être extrêmement fort. Et il y a des auteurs, comme Dashiell Hammett, par exemple, où la présence de l'alcool a marqué toute sa vie. La relation au sexe, à la débauche. Et donc, cette façon d'écrire pour rester debout, pour ne pas sombrer dans une Amérique d'une grande violence. Il y a des succès qui sont immédiats, d'autres non. Mais en tout cas, une écriture qui a marqué un très grand nombre d'écrivains. Et chaque biographie se termine par un arbre, une sorte d'arbre généalogique mentionnant quelques écrivains qui sont dans la continuité de l'auteur présenté, de l'écrivain présenté par la biographie. Alors, ça permet d'ouvrir encore cette littérature et cette façon, notre envie de l'explorer. Il y a à la fin, une fois le livre terminé, une envie d'aller reprendre les textes des différents écrivains présentés, comme lire Dashiell Hammett, relire Hemingway ou Francis Scott Fitzgerald, les 10. Ouais. On peut, et en tout cas, moi, c'est le souhait que je fais, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'il y ait un tome 3 sur les écrivains de la dernière partie du XXe siècle et du début du XXIe. Il y a des noms qui sont mentionnés, mais dont on a envie d'en connaître plus. Bon, Jim Harrison, Paul Auster, Philip Roth, David Foster Wallace, Edward Abbey, Toni Morrison qui est mentionné, mais on a envie d'en savoir plus. Russell Banks, Bukowski ou James Ellroy, John Fante, Frédéric Exley ou Steve Tezich. Pourquoi ne pas s'engager dans une présentation de la littérature contemporaine américaine qui marque les lecteurs et qui est d'une très grande richesse et qui, à travers cette écriture en bande dessinée de ces différentes biographies, avec la façon dont Catherine Maury et Jean-Baptiste Eustache ont articulé leurs deux moyens d'expression pour donner toute cette intensité à chacune des biographies, ben on a vraiment envie qu'on poursuive cette écriture et qu'il y a eu, il était une fois, l'Amérique, tome 3, une histoire de la littérature américaine de la fin du XXe et du XXIe siècle. Donc là, nous sommes sur le tome 2 écrit par Catherine Maury et mis en image par Jean-Baptiste Eustache. Oliver Ganmeister et François Guéry font participer à la sélection de ces 10 auteurs. Il ne manque pas d'arguments, bien évidemment. Et c'est publié par les Arènes Bande Dessinée. Les 256 pages de ce livre sont au prix de 30 euros. Et je vais essayer de vous trouver le pays où a été imprimé ce livre. Eh bien, c'est la Belgique. Merci Marin pour cette technique et nous nous retrouvons la semaine prochaine et bien pour une autre écriture dessinée. Bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.